Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens.
Les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu pour parler cette semaine du secteur du tourisme qui pâtit lui aussi des effets générés par les émeutes, l'absence de touristes, auxquels il faut aussi ajouter des difficultés dans certains cas à bénéficier des aides mises en place constituent des défis pour les acteurs du tourisme au sens large. Nous allons en parler avec nos invités. Vaïa Froger, qui est la présidente du syndicat des agences de voyage. Raphaël Larvor, qui est le directeur du développement économique et du tourisme à la province sud. Nous entendrons également le restaurateur Serge Layec, qui ne pouvait pas être avec nous, mais qui nous a donné son témoignage sur ce qu'il vit actuellement. Alors, on va commencer peut-être, Raphaël Larvor, avant d'explorer, parce que le secteur du tourisme est un secteur très très large, hein, avec un certain nombre de particularités. Il faut rappeler quand même qu'on pourrait parler, c'est un mot à la mode, de tout un écosystème autour du tourisme.
Oui, bonjour Jean-François. Bien sûr, on peut parler d'écosystème pour ce qui concerne le tourisme. Puisque évidemment, il est assez difficile d'ailleurs de qualifier le tourisme, puisque donc il couvre finalement beaucoup de secteurs distincts. Hein, ça peut aller donc du transport maritime, évidemment, à l'hôtellerie, en passant par la location de voitures. Hein, donc on est sur quelque chose d'extrêmement large. Donc voilà, le vocable de écosystème est assez bien pertinent. En tous les cas, hein, faut bien comprendre que en matière d'activité économique, c'est absolument central donc pour la province sud. Hein. Le Covid, hein, on était quand même sur environ 29 à 30 milliards de chiffres d'affaires et de recettes touristiques. Donc, si on compte les touristes et puis les croisiéristes, donc 30 milliards de chiffres d'affaires, c'est quelque chose d'absolument considérable. Et donc avec donc ensuite un ruissellement sur l'ensemble de l'économie, évidemment, de la province. On était arrivé à 130 000 touristes. Alors évidemment, le Covid est arrivé par là, ça a ralenti, ça a stoppé, puis le redémarrage a été plutôt lent. Mais néanmoins, ce redémarrage était une réalité. Alors ce qui s'est passé, évidemment, le 13 mai dernier, a mis là pour le compte à terre, finalement, tous ces efforts de reconstruction post-Covid qui commençaient à porter leurs fruits. Il faut dire, pour ajouter au chiffre d'affaires, hein, 30 milliards encore, je le répète, ça représentait en emploi quelque chose de considérable, puisque en fait, il était estimé à environ 5 000 emplois directs sur la Nouvelle-Calédonie, concernant, et donc principalement concentré dans la province sud, donc concernant donc, le secteur donc, tourisme au sens large.
Et aujourd'hui, c'est bien l'ensemble hein, du secteur touristique qui subit les effets des émeutes du 13 mai hein.
Oui,
tous les secteurs sont touchés, hein, tous ces écosystèmes en quelque sorte.
Tous les secteurs sont touchés à plus ou moins, avec plus ou moins d'intensité. C'est vrai qu'on a plus de touristes. Ça, c'est clair. On a quand même dû un flux, donc, ne serait-ce que par les forces de l'ordre qui permettent de compenser un petit peu l'activité dans certains endroits, évidemment, sur certaines activités, restauration peut-être, bar sans doute à Nouméa. Néanmoins, ça n'est pas à la hauteur de ce que représentait le tourisme, évidemment, et les croisiéristes dans la situation antérieure.
Mmh. Alors, vous confirmez, j'imagine, Vaïa Froger, qu'aujourd'hui, le secteur touristique en général est très durement impacté. Cela touche aussi les agences de voyage dont on rappelle qu'elles font venir et partir les éventuels touristes et les personnes qui entrent et qui sortent du territoire. Et c'est aussi un peu une double peine parce que Raphaël Larvor l'a dit, mais cette crise liée à l'insurrection, cette crise économique liée aux émeutes, suit la crise que vous avez traversée pendant le Covid et dont vous n'étiez pas, vous, agence de voyage, totalement remise encore.
Effectivement, il faut quand même rappeler que les conséquences du Covid ont été subies par les agences de voyage jusqu'au mois de juin 2022. Ce n'est pas il y a si longtemps que ça. Pour rappel, en juin 2022, vous portiez encore des masques chirurgicaux dans les avions. Il fallait encore un test PCR dans le nez pour pouvoir prendre l'avion pour aller en Nouvelle-Zélande. Les restrictions, les obligations vaccinales venaient d'être levées. Donc, on est vraiment sur une période, il y a à peine 2 ans, où notre secteur ne fonctionnait pas correctement, ne fonctionnait pas à plein régime. Et ce que l'on déplore aujourd'hui, c'est que donc on va dire l'État, la DGFiP, en tous les cas les structures qui nous proposent des aides, nous demandent d'apporter des justificatifs de chiffre d'affaires sur des périodes où nous ne fonctionnions pas correctement. où nous ne pouvions pas fonctionner à plein régime.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur ces aides, vous n'arrivez pas à les percevoir, vous ne rentrez pas dans les critères qui sont définis.
C'est absolument exact, et c'est ce que je veux dénoncer aujourd'hui. C'est très bien de mettre en place des aides, c'est parfait, c'est une bonne idée. Or, je vous donne un exemple précis, le mien. J'ai fait ma demande de fonds de solidarité de l'État pour le mois de mai, où j'ai perdu plus de 50% de mon chiffre d'affaires. Eh bien, j'ai reçu une réponse le 9 septembre pour me dire que, eh ben non, en fin de compte, je n'avais pas perdu suffisamment de chiffre d'affaires, puisqu'il se base sur mon mois de mai 2022.
Qui était encore un mois impacté par le Covid.
Voilà. Exactement. Donc, nous, on souhaiterait vraiment aujourd'hui que ce soit les agences de voyage, les agences de tourisme, le syndicat que je représente et les acteurs du tourisme en général. On a besoin d'avoir des interlocuteurs en face de nous. On a fait des courriers, on a passé des coups de téléphone, ça ne fonctionne pas. Donc, j'espère réellement que ce cri d'alerte sur votre antenne va nous aider à nous faire entendre pour que les aides qui sont proposées soient cohérentes et nous permettent à nous d'avancer et de tenir et de continuer à travailler.
Aujourd'hui, il y a combien d'agences de voyage qui sont encore debout et combien ont mis la clé sous la porte ?
Alors, avant le Covid, on avait 10 agences de voyage qui représentaient à peu près 100-150 employés. Après le Covid, il nous restait 8 agences de voyage pour environ 70 employés. Aujourd'hui, après les émeutes du 13 mai, il y a 7 agences de voyage. Il y a une agence qui a été pillée, brûlée, saccagée, et on pense évidemment à notre collègue qui a subi ces exactions. Et on n'a pas un état précis, puisque il y a eu des licenciements économiques, il y a du chômage partiel en cours, donc
c'est difficile de savoir exactement.
Exactement.
Alors Raphaël Larvor, ces aides, elles sont multiples. Hein. Il y a les aides qui ont été mises en place par l'État, la province sud a mis en place aussi un certain nombre d'aides. L'idée, c'était d'arriver à couvrir le plus possible hein, les besoins des entreprises, en complément peut-être les uns des autres. C'est encore ce maillage peut-être qu'il faut affiner, selon vous ?
Alors oui, effectivement, je confirme ce que vient de dire Vaya. Les aides de l'État sont trop lentes à arriver. Ça, c'est un fait. On est aujourd'hui dans une course de vitesse. Comment, et on ne peut pas se permettre d'attendre et de regarder les entreprises mourir. Ce constat, hein, qui est une évidence, comment a poussé donc, la province sud à proposer des aides donc, au lendemain donc, des exactions du 13 mai. Des aides donc, pour aider les entreprises, alors pas simplement les entreprises touristiques, hein, qui d'ailleurs étaient moins touchées que d'autres entreprises artisanales, par exemple, ou industrielles à Ducos, évidemment. Donc la province sud avait pris les devants en fait, pour permettre le versement des salaires, et ça nous a quand même coûté la bagatelle de plus d'un milliard. Hein. Donc mise en œuvre très rapidement. Ce plan d'urgence là est venu en fait en complément d'un plan d'urgence qui existait déjà d'ailleurs depuis le mois de novembre de 2023, où sur la constatation donc d'un ralentissement économique généralisé, la province sud donc avait également là donc pris l'année dernière donc l'initiative de mettre en œuvre justement une série d'aides. Ce plan d'urgence malheureusement est arrivé à son terme, puisque de toute façon les finances de la province sud sont exsangues, mais nous avions quand même décembre de 2023 et juin 2024 dépensé environ 260 millions d'aides directes aux entreprises. Pour nous c'est très important, la rapidité d'action, et ces aides ont été versées. Parce que il faut bien comprendre que l'important, c'est de faire en sorte que les entreprises restent à flot. On n'était pas là pour rembourser des salaires ou des. On est là pour faire en sorte que les entreprises réussissent à continuer à pouvoir vivre, à pouvoir payer leurs charges, de façon à ce qu'elles ne disparaissent pas. Parce que ça a un coût. Les chiffres que je viens de vous donner représente un coût pour la collectivité, mais ce coût serait bien supérieur si ces entreprises disparaissaient définitivement et qu'il fallait finalement recommencer à tisser un tissu donc économique en fait qui aurait été partiellement détruit. Reconstruire c'est très très compliqué, détruire c'est facile.
Je voudrais compléter, si vous le voulez bien, les propos de Raphaël. Les dispositifs, il y a des dispositifs qui ont été mis en place effectivement rapidement. On va parler du chômage partiel et on va parler notamment des banques qui proposent les prêts garantis par l'État, les PGE. Dans notre secteur, le secteur du tourisme, nombre d'entreprises ont souscrit des PGE au moment du Covid pour justement avoir de la trésorerie pour tenir le coup. Et réussir
mais
à passer
ces 18
mois. Ces PGE, nous sommes toujours en train de les rembourser. Donc aujourd'hui, moi, je vais demander à mon banquier un PGE. Il va me dire, vous êtes bien gentille, chère madame, mais vous avez déjà un PGE en cours. Donc il y a un moment, il faut, les aides qui nous sont proposées ne sont plus cohérentes. C'est plus possible. Et il faut vraiment que ces personnes qui réfléchissent et qui mettent ces aides en place descendent sur le terrain avec nous pour comprendre les situations et que ces aides, elles soient vraiment adaptées à ce que nous, on est en train de vivre.
Il y a d'ailleurs eu, Raphaël Larvor, une note de l'autorité de la concurrence dont on a parlé, à destination des pouvoirs publics, pour faire en sorte effectivement que ces aides soient les plus cohérentes possibles. Alors personne n'est mis en cause, évidemment, parce que chacun réagit le plus vite possible et à sa façon, mais il y a peut-être encore ce besoin d'harmonisation, en tout cas de précision sur les aides qui sont les différents organismes ou collectivités qui versent des aides.
Il ne faut pas payer deux fois. Ça, c'est effectivement une instruction qui est très claire. Là, en l'occurrence, pour donc, les aides à la suite donc, des exactions, c'est la province sud qui a tiré la première. Maintenant, donc, l'État, au travers donc, de ce qui vient d'être dit, le financement donc, du chômage partiel, a permis donc, de maintenir quand même des salaires. Donc, on a été contraint de faire des vérifications pour voir justement si on ne couvrait pas deux fois la même chose. C'est très, très important. Je tenais à préciser que les aides financières sont une chose, mais ce ne sont pas les seules. La province sud ne fait pas qu'aider financièrement pour maintenir à flot les entreprises, mais on fait en sorte aussi de permettre aux entreprises de travailler. Alors, dans le cadre du tourisme, on a l'exemple très, très simple de la réouverture du domaine de Deva, par exemple, où plutôt que de donner des aides, il est bien préférable, parce que c'est ce que veulent finalement les chefs d'entreprise, c'est d'avoir des marchés, c'est d'avoir de faire du chiffre d'affaires naturellement. Donc ce qui effectivement nous a poussé à réouvrir là au mois d'août le domaine de Deva pendant les vacances.
Malheureusement refermé par un risque incendie en ce moment, mais bon voilà, j'espère que c'est très provisoire.
Mais disons que ça nous a permis de tester finalement la volonté des Nouméens notamment, mais pas seulement, de retrouver finalement une activité touristique plus normale pendant les vacances scolaires, évidemment, pour occuper les enfants. On a des fréquentations qui étaient très très encourageantes. Voilà.
Bahia Froger,
si vous me permettez, Jean-François, on parle du domaine de Deva, je voudrais parler d'un modèle économique qui est celui du méridien de l'île des Pins. On parle du tourisme local. Ce modèle économique qui, effectivement, a été une réussite entre les pouvoirs publics et les autorités coutumières qui ont réussi à créer un outil qui a fonctionné, qui a permis de créer de la valeur ajoutée localement, qui a créé du travail localement avec des petites entreprises. Et aujourd'hui, qui est fermé parce que on veut plus de blancs, on veut plus de touristes à l'île des Pins, d'une part, mais par contre, ils veulent bien demander du chômage partiel et toutes les aides qui vont bien. Donc, j'en reviens à ce que disait Raphaël, c'est très exact, il faut que la province vérifie qu'on ne paye pas deux fois la même chose. Mais enfin, il y a un moment, il faut aussi que l'État redescende avec nous sur le terrain pour s'assurer que les aides sont utilisées à bon escient.
J'en reviens au cas particulier des agences de voyage que vous évoquiez tout à l'heure, Veille Afroger. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous envisagez? Quels sont les recours possibles? Vous n'avez pas de réponse sur les aides que vous demandez. Si on comprend bien, vous n'allez pas pouvoir durer très longtemps dans le temps, vous et les autres agences de voyage. Quels sont les recours? Quelles sont les pistes que vous envisagez pour essayer de sortir de cette situation?
Il est certain qu'on ne va pas pouvoir tenir encore 6 mois comme ça. Je vais vous donner des exemples très concrets. Air Calin a ajusté son programme de vol, à juste titre, suite aux exactions. Air New Zealand a décidé de ne plus revenir en Nouvelle-Calédonie avant le mois de mars l'année prochaine. Leur réaction, elle est simplement...
Même mois d'avril, parce que c'est fin mars.
Oui, bien sûr. Leur réaction, elle est purement économique. Est-ce que la Nouvelle-Zélande a la capacité de faire venir des touristes néo-zélandais en Nouvelle-Calédonie? La réponse est non. Donc leur décision, elle est très claire, elle est simple. Qantas est en partenariat, un partenariat un peu plus de longue date avec Air Calin, donc s'est engagé à revenir au moins sur 2 vols. Mais je vais vous donner des exemples très, très, très concrets pour que les auditeurs comprennent. Sur la Polynésie française, sur Tahiti, nous avons perdu 250 sièges aller, 250 sièges retour par semaine. Sur le Japon, sur Tokyo, il y a 3 vols qui ont été annulés. Ça peut paraître pas grand-chose, ça fait 750 sièges en moins à l'aller et au retour. Sur le Japon, certes, mais sur le reste, sur la suite, sur la métropole, sur la Nouvelle-Zélande et sur Brisbane, c'est 450 sièges en moins à l'aller et au retour. Sydney, entre 600 et 900. Donc aujourd'hui, le nombre de sièges s'est tellement réduit pour rentrer et sortir de Nouvelle-Calédonie, que d'une part, nos clients nous disent excusez-nous, mais enfin, vos tarifs sont quand même très, très élevés, et ils ont raison. Et d'autre part, c'est compliqué de faire revenir du touriste quand il n'y a pas de siège disponible. Donc, il y a une vraie réflexion à mener autour de ça. Et encore une fois, je demande à l'État, qui doit venir nous aider sur ce sujet, de descendre sur le terrain avec nous pour le faire. Nous, ce qu'on souhaiterait, pour en revenir concrètement, vous me posiez la question sur les aides, c'est que nos situations et nos demandes d'aide soient examinées sur la base de nos chiffres de 2023, puisque 2023, c'est l'année où on a recommencé à travailler correctement.
Alors, il y a un autre secteur dont il faut parler, parce que vous l'avez rappelé, Raphaël Larvor, c'est tout un écosystème, hein, le tourisme. Il y a les hôteliers restaurateurs. Alors, ils bénéficient en ce moment notamment de la présence de forces de l'ordre, ce qui fait qu'ils arrivent quand même à maintenir une activité, mais ça reste compliqué pour eux. Nous avons interrogé l'un des restaurateurs présents sur Nouméa, puisqu'il a 4 restaurants, c'est Serge Layek. Il a fait un point sur ces 4 restaurants, et notamment sur celui du golfe de Tina, puisque c'est l'un des restaurants sur lequel il a subi des exactions. On l'écoute.
Dès la nuit du 13 mai, nous avons été pillés, cambriolés, saccagés au restaurant du golfe de Tina. On a eu une première incursion de plusieurs cambrioleurs et meutiers qui ont fracassé les portes d'entrée du golfe et par la suite entré dans le bar du restaurant. Ils sont revenus à plusieurs reprises, mais les voisins vigilants les ont repoussés, donc ça c'est une bonne chose. J'ai eu une lettre par la suite, liée au pillage. Les aides économiques qui sont liées à la perte d'activité.
Justement, cette perte d'activité aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que vous arrivez à peu près à la quantifier?
Bien sûr, sur Tina, c'est 50% de perte d'activité aujourd'hui, mais on a eu bien évidemment 100% de perte d'activité les 10 premiers jours pendant la fermeture totale. Et on est progressivement remonté à une activité qui représente à peu près la moitié de ce qu'on fait d'habitude, parce que sur le restaurant du golfe de Tina, je n'ai pas pu ouvrir le soir encore. L'ambiance est encore un petit peu anxiogène, bien que ce soit calmé. L'accès au golf et au restaurant est maintenant bien sécurisé. Mais par souci de sécurité pour les clients et le personnel, je préfère attendre le mois d'octobre pour envisager une ouverture le soir. Tandis qu'en ville, l'activité des restaurants a repris plus ou moins normalement.
Plus ou moins normalement, c'est-à-dire que vous avez retrouvé un chiffre d'affaires équivalent à peu près à la période d'avant les émeutes?
Ça s'est fait progressivement, mais aujourd'hui, le chiffre d'affaires est relativement identique. On a à peu près 10 à 15% en moins. Avec les forces de l'ordre, ça permet d'aider certains établissements. Mais malheureusement, pas tous ne bénéficient de cet appoint d'activité. Le premier mois, donc au mois de mai, on a eu des aides de l'État. Il fallait constater une perte de 50% de chiffre d'affaires. Mais le mois de juin, la perte d'activité était quand même colossale, puisque certains restaurants ne sont pas à 50%. Il suffit d'avoir 45% de baisse d'activité et on n'a pas eu d'aide si on n'a pas eu plus de 50% de perte d'activité. Donc là, il y a une petite anomalie qui n'est pas tout à fait logique. On a bien eu des aides sur le mois de mai, mais pas sur le mois de juin.
Aujourd'hui, vous pensez que l'activité peut redevenir à la normale dans les semaines ou les mois qui viennent, ou vous pensez que ça ira plus vite?
Je pense pas. pas qu'on retrouve une activité identique à ce qu'on avait avant les événements. Alors tant que les forces de l'ordre seront là, déjà ça va sécuriser la clientèle. Mais on se rend compte aussi quelque part que l'activité restaurant et bar s'est concentrée sur les baies principalement, en tout état de cause en ville. Et une fois que les forces de l'ordre sont parties, j'ai bien peur que l'exode qui a commencé le mois de mai nous pénalise beaucoup dans nos activités, ça c'est certain.
Voilà Serge Layec, membre du bureau du syndicat des hôtels-restaurants, qui lui-même est gérant de restaurant et qui a donc rencontré un certain nombre de difficultés. On va revenir sur ce qu'il disait à la fin il y a un instant avec vous, Vaïa Frogé, mais peut-être avant Raphaël Larvor. Évidemment, il y a une question qu'on se pose. On sait que la province Sud a été réunie ce matin en assemblée plénière. Elle a baissé une baisse de son budget de 4% parce qu'on connaît les difficultés économiques. Aujourd'hui, est-ce que la province, comme d'autres collectivités, sont selon vous allées au bout des aides qu'elles pouvaient octroyer parce que financièrement, il y a plus d'argent dans les caisses, quoi.
Merci pour cette question, effectivement. Ce matin, il y avait le vote de la décision modificative numéro 2 du budget de l'année 2024 qui a effectivement entériné la situation difficile des finances publiques. Hein. Je rappelle des chiffres qui ont été cités en entrée de cette séance de ce matin. La perte d'activité, parce que c'est bien ce dont parlait le restaurateur, on parle de perte d'activité. C'est-à-dire que concrètement, ça fait quoi? Ça fait des chiffres d'affaires en moins et ça fait des impôts finalement collectés.
C'est en cascade. Ce sont des effets en cascade.
Donc on a très concrètement un impact direct sur les finances publiques qui sont la compétence, c'est le gouvernement qui a cette compétence fiscale, qui collecte les impôts. Et là, en l'occurrence, l'estimation de la perte de ressources fiscales pour la Nouvelle-Calédonie, sur l'année, c'est 32,5 milliards. 32,5 milliards d'impôts en moins qui rentrent dans les finances de la Nouvelle-Calédonie, qui est chargée de la redistribution après aux diverses collectivités. La province Sud, évidemment, collectivité majeure de la Nouvelle-Calédonie, c'est 32 milliards en moins pour le gouvernement. Ça représente une moins-value de 11 milliards pour les finances de la province. 11 milliards. Donc autant dire qu'effectivement, avec 11 milliards en moins, je dirais qu'on ne va pas pouvoir continuer à aider tel qu'on a pu le faire. On est passé à autre chose. Vient se rajouter en plus de ça une situation qui n'était pas favorable de la part du gouvernement, puisque même s'il a repris les versements ces derniers mois de la fiscalité de reversement, pour la province, il y a quand même un déficit. Un déficit qui se chiffre aujourd'hui à 6 milliards. C'est-à-dire que le gouvernement, la Nouvelle-Calédonie, doit à la province Sud 6 milliards. Donc si vous rajoutez à ça la contraction des finances publiques au travers de la baisse de l'activité, vous comprenez finalement la situation de la province. Donc, non, les aides aujourd'hui, on ne peut plus. C'est on fait tout ce qui est de notre possible pour conserver quand même une capacité pour payer évidemment le fonctionnement et aussi pour se préserver des capacités d'investissement, parce que l'investissement c'est bien là où se jouera finalement l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, c'est notre capacité à pouvoir relancer finalement des grands chantiers, regarder devant plutôt que être obligé de gérer le quotidien comme on le fait aujourd'hui. Et là, oui, peut-être que l'État sera à nouveau, et je l'espère plus efficacement, appelé à la rescousse. Alors, il y a, c'est vrai, il y a quand même, il faut reconnaître, des annonces qui ont été faites. L'investissement de l'État, des promesses, de financement à venir. On peut apprécier ces annonces de soutien, mais on attendra les versements pour s'en féliciter véritablement.
Alors, Vaïa Frogé, on l'a dit, pour l'instant, à Nouméa, dans le Grand Nouméa, en tout cas, les forces de l'ordre permettent de maintenir une certaine activité, en tout cas au niveau des hôtels-restaurants, mais ça ne va pas durer. Et puis, on sait qu'il y a aussi un certain nombre de départs, donc ça génère beaucoup d'inquiétudes pour vous.
Je suis très heureuse pour nos collègues restaurateurs et hôteliers qui aient ces forces de l'ordre effectivement pour consommer chez eux. Malheureusement, c'est pas nous qui faisons leurs billets d'avion. En revanche, je voudrais vraiment rebondir sur un terme qu'a utilisé Monsieur Layec, c'est le terme d'exode. L'activité principale aujourd'hui des agences de voyage, ce sont effectivement des billets en aller simple. Principalement sur la métropole. Et je tiens à le dire haut et fort, non, ce ne sont pas que les métros qui s'en vont. ce sont tous les Calédoniens de toutes les couleurs, de tous les âges, de tous les formats, de toutes les tailles. Pour la simple et bonne raison qu'il y a à peu près 15-20 000 personnes, c'est le MEDEF ou la CAFAT qui nous le confirmeront, qui ont perdu leur travail en Nouvelle-Calédonie. Et entre avoir le choix de rester au chômage en Calédonie et potentiellement vivre sous un pont ou retourner vivre chez vos parents, ce qui n'est peut-être pas la meilleure des choses, et partir en métropole et trouver du travail, eh bien, vous faites le choix de prendre un billet en aller simple et de partir chercher du travail. Et ils ne le font pas de gaieté de cœur. Hein. Je peux vous dire que nous, il y a quelques pleurs en agence, parce que on le ressent dans nos tripes aussi. C'est vraiment pas des situations qui sont agréables. On a des parents qui envoient leurs enfants en métropole pour continuer leurs études, parce que, par exemple, l'école d'infirmière a brûlé en Nouvelle-Calédonie. Votre fille, elle veut être infirmière, vous faites comment ? Eh bien, la solution, c'est de l'envoyer en métropole. Voilà. Donc aujourd'hui, on a vraiment un sujet sur les départs qui ne sont pas des départs d'abandon. Les gens n'abandonnent pas la Calédonie.
Ils vont chercher du travail ailleurs
parce qu'il n'y a pas le choix. Et si je peux vraiment passer un dernier message, moi je voudrais... on a écrit des courriers à la Terre entière, au commissariat, à la DGFiP, etc. S'il vous plaît, recevez-nous parce qu'on a besoin de ces aides pour tenir le coup.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu pour nous parler des difficultés actuelles du secteur du tourisme au sens large, parce que, encore une fois, c'est un secteur qui regroupe beaucoup d'emplois directs, indirects et qui touche beaucoup d'activités économiques.
C'était les jeudis de l'économie avec la BCI.